We have heard a wonderful succession of greetings and wishes. Thank you all very much for your kind words. But now, last but not least, it is time for the chair of the Church Council of the Lutheran Church of Geneva, Professor Friedrich Lohmann, to come in. Friedrich will speak about us, about the Lutheran Church of Geneva as a migration church and its building. His address will be in French, but there are English translations available on paper.
Merci à Dagmar pour cette introduction et je profite de l'occasion pour vous présenter aussi finalement notre conférencière. Elle était trop modeste pour se présenter elle-même, donc moi je prends ça volontiers en charge. Dagmar Margold, qui est membre de la paroisse germanophone et elle était pour assez longtemps, je pense, la présidente de la Fédération des Églises luthériennes de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein. Voilà, alors merci pour Dagmar. Chers invités d'honneur, chers amis de l'Église luthérienne de Genève, venus de près et de loin. Être luthérien à Genève, c'est quelque chose de spécial. Nous l'avons remarqué dans le comité d'organisation de ce jubilé, lorsqu'il fallait donner un nom à ce bâtiment que nous célébrons aujourd'hui pour ses 250 ans. Qu'est-ce qu'il fallait mettre sur l'affiche ? Est-ce que nous célébrons un temple ou une église? La langue française utilise les deux mots pour un édifice chrétien avec la particularité que le temple signifie un bâtiment utilisé par l'église réformée, calviniste donc, tandis que le nom église fait penser à la confession catholique de la foi chrétienne. Il n'y a pas de troisième mot dans la langue française. Il faut choisir entre le temple réformé et l'Église catholique, une autre confession que le calvinisme ou le catholicisme n'est pas prévu dans le vocabulaire. Il n'y a pas de place pour les luthériens et leur bâtiment, pour ainsi dire. Notre choix au comité est tombé sur le mot « temple », non pas par mépris pour nos frères et sœurs catholiques avec lesquels nous entretenons des très bonnes relations. Mais, après tout, les luthériens sont des protestants, comme les calvinistes réformés, et ainsi il nous paraissait adéquat de marquer cette proximité en affichant les 250 ans du temple luthérien. Ce petit problème de langage n'est pas anodin. Il témoigne du fait que le luthéranisme est minoritaire dans la francophonie, qui est, par rapport à sa population chrétienne, largement dominée par les réformés et les catholiques. Et le luthéranisme est minoritaire aussi à Genève. Ce n'étaient pas des Genevois-nés qui ont introduit la prêche luthérienne à Genève. C'étaient des marchands allemands de passage qui ont répandu le message de Luther à Genève, d'ailleurs déjà dans les années 1520, bien avant que Calvin ait mis son pied dans le futur Rome protestant. Et en fait, c'est resté comme ça. Les luthériens à Genève, ce sont pour la plupart des gens de passage, des expatriés qui passent quelques années, voire quelques mois à Genève, avant qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Nous avons, dans notre communauté luthérienne à Genève actuelle, très peu de Genevois-nés, mais nous avons des personnes qui représentent à peu près 50 nationalités, ce qui fait de nous probablement la communauté religieuse la plus internationale à Genève. Et littéralement, nos membres viennent des quatre coins du monde, du Pérou, de la Tanzanie, des Philippines, de l'Australie, pour ne donner que quelques-uns de nos pays d'origine. Les Allemands toujours jouent un grand rôle parmi nous. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, nous l'avons déjà entendu, avec toutes les organisations internationales qui ont pris leur siège à Genève, le luthéralisme à Genève s'est aussi fortement internationalisé, faisant de notre communauté un mélange exemplaire de cultures diverses. Tous ces expatriés ont trouvé dans l'Église luthérienne de Genève leur chez-soi spirituel, en tout cas pour le temps de leur passage à Genève. Le culte que nous avons célébré ce matin a fait valoir une image forte pour l'adhésion du croyant au temple de Dieu, image qui nous est transmise dans les psaumes. L'oiseau a trouvé son nid. Comme les oiseaux migrateurs qui, malgré tout, ont besoin d'un nid pour s'y poser, ainsi, les expatriés et migrants de nos jours ont besoin d'une certaine stabilité, d'un lieu où ils se sentent les bienvenus, un abri, un chez-soi. Et cette notion, cette image d'un nid, d'un chez-soi, m'amène directement de notre communauté luthérienne, diverse et temporaire, au bâtiment que nous célébrons aujourd'hui pour ces 250 ans. Car ce bâtiment, ce temple, a bien exactement cette fonction. Il est une place pour se poser, un domicile et même un abri pour les expatriés de Genève, de confession luthérienne ou pas. Il n'allait pas de soi qu'un tel temple, non calviniste, ait vu le jour à Genève. Au fur et à mesure, pas mal de recherches ont été menées dans nos archives et dans les archives de l'État de Genève sur les origines du temple luthérien. Je résume très brièvement le résultat. Après leur première apparition à Genève dans les années 1520, les marchands allemands luthériens sont régulièrement revenus en passage pour des foires à Lyon ou ailleurs. Ils se sont établis à Lyon, mais après 1685 et la révocation de l'édit de Nantes en France, ils étaient dans l'obligation de trouver un nouveau nid pour y pratiquer leur foi. Ils ont fait une demande aux autorités de Genève et après 20 années de travail de persuasion, l'Église luthérienne a pu célébrer son premier culte à Genève en 1707 avec l'accord et de l'Église et du Grand Conseil de Genève. On peut évoquer ici le rôle favorable aux luthériens qui a été joué par la Compagnie des pasteurs de Genève, aussi représentée par son modérateur actuel, Patrick Beau. Dans une époque qui était encore imprégnée par de fortes tensions entre les calvinistes et les luthériens sur le plan théologique, cet accord était en fait un grand signe de tolérance de la part des autorités de Genève. Dans ses débuts, la communauté luthérienne de Genève a loué une salle pour les cultes, mais au fur et à mesure, cette salle s'est avérée trop petite. En plus, dans les années 1750, le propriétaire du bâtiment loué allait changer et la communauté devrait craindre que le nouveau propriétaire les mette à la porte. Voilà d'ailleurs une indication que les congés ventes de nos affiches de votation aujourd'hui sont un spectre qui hante les Genevois depuis bien longtemps. À l'époque, la décision d'acheter a été prise. Les autorités de la ville et de l'Église ont donné à nouveau leur accord et en 1762, la perle rare a été trouvée, le château de Coudray à la place du Bourg de Four. L'achat a pu se faire grâce au soutien de 6 familles fondatrices et de quelques ducs allemands. L'ancien château, délabré, a été remplacé par le bâtiment actuel, dont l'apparition extérieure a à peine changé au cours des 250 ans qui se sont écoulés depuis le premier culte de 1766. L'intérieur, par contre, a vu plusieurs rénovations, dont la dernière a eu lieu entre 1988 et 1991, et cette rénovation est encore inscrite vivement dans la mémoire de quelques paroissiens présents parmi nous aujourd'hui. Le temple luthérien, construit plutôt dans le style d'une maison bourgeoise et pas reconnaissable en tant qu'édifice religieux de l'extérieur, a été classé monument historique en 1921 et il fait depuis lors partie du patrimoine suisse. Et là, nous tombons sur une autre particularité de l'Église luthérienne de Genève. Elle est une communauté d'étrangers qui est propriétaire d'un bâtiment qui fait partie du patrimoine suisse. N'est-ce pas paradoxe? En tout cas, c'est hors du commun. Il y a peu d'églises issues de la migration qui sont propriétaires, et tout probablement aucune d'elles est propriétaire d'un bâtiment classé, protégé par les lois suisses. Cette situation unique met l'Église luthérienne de Genève et ses partenaires étatiques devant une responsabilité particulière. D'un côté, les paroissiens expatriés doivent aller au-delà de leur statut d'oiseau migrateur. Ils doivent investir dans la pierre financièrement et moralement, s'ils veulent être à la hauteur de leurs prédécesseurs dont l'engagement pour le bâtiment a fait de leur temple un des joyaux du patrimoine genevois. De l'autre côté, les partenaires étatiques de l'Église doivent se rendre compte que le propriétaire de ce bâtiment classé jouit d'un statut particulier. En commençant par le changement constant des responsables paroissiaux. Et ce statut spécial continue par l'usage particulier typique pour une église. Le temple luthérien est, pour suivre la formule dans l'acte d'autorisation, une maison pour y faire le culte. Un temple est un lieu pour le spirituel. Il n'est pas un immeuble locatif. Et suite à cela, les revenus immobiliers qui pourraient être réutilisés pour le maintien du bâtiment sont très modestes. Éric Vullier, le responsable du parc immobilier de l'Église protestante de Genève, l'a très bien dit dans un courrier du lecteur paru il y a 2 semaines dans la tribune de Genève. L'EPG peut bien être l'un des plus grands propriétaires immobiliers du canton, mais à la différence d'une caisse de pension, l'Église ne retire pas beaucoup de revenus de ses biens immobiliers. Bien au contraire, les charges sont lourdes et les revenus maigres. Même chose sur une échelle plus petite pour l'Église luthérienne de Genève. Même si elle est prête à s'investir dans la pierre, ses moyens financiers sont très limités et il fait partie de la responsabilité de ses partenaires étatiques de se rendre compte de cette situation délicate dans laquelle se retrouve, dans une certaine mesure, chaque église propriétaire. Mais il y a encore une autre responsabilité qui ressort pour l'Église luthérienne de Genève du fait qu'elle est propriétaire d'un temple. La responsabilité d'accueillir. Cette responsabilité a été évoquée déjà dans les années 1760, lorsque les autorités de la Genève de l'époque ont lié leur autorisation de construire à la volonté des luthériens d'antan de servir la communauté genevoise et en particulier à la promesse d'utiliser le nouveau temple pour l'accueil d'autres migrants. La Genève du XVIIIe était une ville hospitalière et on formulait la même exigence aux luthériens de l'époque. Et on peut dire que les propriétaires de la nouvelle maison pour y faire le culte au bourg de Four s'y sont mis. L'Église luthérienne de Genève s'est distinguée à partir du 19e siècle par ses efforts pour la société genevoise en général. Pour ne donner que deux exemples, la vente de la diaconie allemande, qui a été organisée une fois par année en faveur des pauvres et qui est maintenue jusqu'à nos jours sous la forme de la vente de l'Avent. Et d'autre part, le Home Saint-Pierre, lui aussi, produit de cette volonté caritative des luthériens de Genève au XIXe siècle. Cette volonté d'accueil se doit de nouveau de faire ses preuves dans la crise migratoire actuelle. Ainsi, l'Église luthérienne de Genève et son temple doivent, de leur côté, faire preuve de cet esprit humanitaire typiquement genevois qui a, en 1766 déjà, permis à un groupe, un petit groupe, d'expatriés allemands de trouver un chez-soi sur le sol genevois. Autrement dit, de trouver une maison. L'héritage nous engage pour l'avenir. Est-ce que c'est quelque chose de spécial d'être luthérien à Genève? Oui et non. Oui, parce que nous, les luthériens, et notre temple ont en effet des particularités distinctives. Et non aussi, car la tâche de s'engager pour le bien commun, pour la justice et contre l'égoïsme fait partie intégrante de l'esprit de Genève. Cet esprit d'accueil humanitaire est un héritage et une responsabilité qui unit tous les Genevois, de provenance luthérienne ou pas. Merci.